Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, nouveau le Salon du vin bio, les 27, 28 et 29 avril prochains, salle de l'atelier à Villefranche, à la rencontre de nos vignerons producteurs, mais aussi des conférences, animations et dégustations seront au rendez-vous avec nous Alexandre Chavanne, vigneron au Beaujolais des Pierres Dorées, Priscilla Adjou, entrepreneur dans l'événementiel à l'initiative de l'événement. Puis, Restaurant du Cœur, la 34e campagne laissera place à celle de l'été prochain. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise et tenterait même à se dégrader. Inquiétude pour l'avenir de l'association due à l'incertitude de l'attribution du montant du Fonds européen d'aide aux plus démunis. À l'horizon 2021, le point de la situation sur le Rhône avec son responsable départemental Bertrand Magnon-Pujot. Et pour conclure, la toute nouvelle librairie coopérative de Trévoux ouvrira ses portes le 18 mai prochain avec nous Héloïse Pontu, l'une des bénévoles engagées dans cette action citoyenne, pour nous en parler. Calade, le journal. Moins de 24 heures après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les 18 premières places du baromètre d'Amazon sont occupées par des livres en lien avec le monument. Mais c'est le classique qui a sauvé au 19e siècle la cathédrale qui arrive, et de très loin, en tête du palmarès. Les ventes de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo s'envolent. Quand l'émotion est trop forte, les Français aiment à chercher refuge au sein de la littérature pour une consolation ou pour mieux comprendre notre monde, nous confie Mohamed Aissaoui dans Le Figaro. L'émotion suscitée par l'incendie qui a ravagé lundi 15 avril le toit et une partie de la charpente de Notre-Dame de Paris se répercute sur les ventes de livres. Après les attentats du 13 novembre 2015, Paris est une fête d'Hemingway, était de toutes les manifestations et sur tous les murs de Facebook. Les ventes s'étaient également envolées en peu de temps. Tout comme le traité sur la tolérance de Voltaire, qui avait servi de symbole après l'attaque contre Charlie et le magasin Hypercacher. La Déclaration universelle des droits de l'homme, enrichie par 32 jeunes illustrateurs, avait pris le même chemin. Ce court ouvrage, édité par Le Chêne, maison spécialisée dans les beaux livres, avait atteint 200 000 exemplaires en quelques semaines. Après la tragédie qui a touché Notre-Dame de Paris, ce sont les romans ou les essais qui évoquent directement ou pas la cathédrale qui s'arrachent en librairie, comme pour chercher une trace de ce qu'a été l'un des plus beaux monuments du monde. D'ailleurs, le magazine professionnel Livre Hebdo a recensé les livres qui, aujourd'hui, sont en rupture de stock ou en cours de réimpression. Tout en haut de la liste figure la version poche revue et augmentée du classique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Pocket 2013. Également en tête du classement des meilleures ventes du site Amazon. Le beau livre Notre-Dame de Paris, La grâce d'une cathédrale, Place des Victoires, Nuée bleue 2012, figure en 5e position. De place devant le guide Paris Notre-Dame, édition du patrimoine 2014, rédigé par le conservateur général du patrimoine Thierry Crépin. Le roman de Victor Hugo, au livre de poche et chez Pocket, tombé dans le domaine public, était aux deux premières places du top 50 des meilleures ventes du site marchand, tous genres et formats confondus. Six des livres les plus vendus étaient soit le roman classique, soit un livre sur l'édifice, souligne Livre Hebdo. Pour le moment, à Paris ou en province, le roman Notre-Dame de Paris est réclamé. Nouveau, le Salon du vin bio, les 27, 28 et 29 avril prochains, salle de l'atelier à Villefranche, à la rencontre de nos vignerons producteurs, mais pas que. Comme nous le précise Alexandre Chavanne, vigneron en Beaujolais des Pierres Dorées, domaine des Côtes d'Or à Pouilly-le-Monial, et Priscilla Adjou, entrepreneur dans l'événementiel, à l'initiative de l'événement.
Donc, j'allais presque dire que ce salon du vin bio, c'est à la fois se cultiver de façon double, cultiver bien sûr sa terre, mais aussi cultiver son esprit, c'est un petit peu ça?
Exactement, c'est le salon du vin bio, mais pas que, parce que vous aurez des conférences sur la vie de la terre, des conférences sur le label bio, des conférences sur l'alimentation, sur la viticulture. Donc je pense que c'est très riche pour que tout le monde puisse trouver sa place dans ce salon. Les animations enfants aussi. On va leur faire découvrir le goût, alors pas le goût du vin, mais le goût des fruits, des arômes, faire fonctionner leur sens. Voilà, qui sera animé par les scouts de France d'ailleurs.
Priscilla Adjout, entrepreneur depuis quelques mois dans l'événementiel. Donc, je suis installée sur la commune de Saint-Loup, près de Tarare. Voilà, et j'officie principalement dans le pays Beaujolais, qui est ma terre d'adoption. On sent depuis quelques années un peu cette tendance, cette mouvance, l'intérêt grandissant du public pour les salons du vin bio, et finalement peu d'occasions d'aller à la découverte des producteurs de vin bio, sauf à prendre sa voiture et à faire le tour des exploitations. Donc l'idée, c'est de rassembler en un seul et même lieu, donc sur 3 journées, des producteurs de vin bio, donc du Beaujolais, mais aussi de toute la France, puisque toutes les régions de France quasiment sont représentées. Et on a envie justement de mettre à l'honneur ces producteurs qui n'ont pas choisi toujours la facilité, puisque voilà, se convertir en bio, c'est beaucoup de travail et ça représente aussi des difficultés parfois dans le processus. Donc on a envie de les mettre à l'honneur, on a envie de leur donner une vitrine et de leur permettre d'entrer en contact aussi bien avec le grand public, les consommateurs, et aussi avec les professionnels, puisque le lundi on aura une journée spécifique pour les exploitants, cafés, hôtels, restaurants qui sont aussi des acheteurs. Et donc on a envie vraiment de créer cette rencontre. Aujourd'hui, on trouvait qu'il y avait assez peu d'occasions pour les petites exploitations, les moyennes exploitations, de se présenter au grand public. Donc voilà pourquoi.
Parce que ça a un coût, bien évidemment, Alexandre Chavanne. Hein.
Alors oui, effectivement, les stands sont souvent très chers. On a voulu un salon avec un prix accessible pour les vignerons, pour les petits vignerons puissent être représentés. Et les salons bio sont souvent des très gros salons. Et donc soit il faut se partager un stand à plusieurs et c'est compliqué. Là, c'est chaque vigneron va pouvoir s'exprimer avec ses vins et son stand.
Bien sûr, des producteurs qui auront envie de vendre ou en tous les cas de faire découvrir leur gamme. Et puis aussi, on l'a dit, la culture qui sera au rendez-vous avec différents conférenciers. On ne peut peut-être pas tout citer parce qu'il y a quand même 3 jours, me semble-t-il. Mais peut-être des temps un petit peu forts.
Oui, des temps forts. Le samedi, alors pour les amoureux de la terre et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, une conférence sur la géologie animée effectivement par un universitaire qui nous fait l'honneur d'être là, qui va nous parler à peu près de 4 milliards d'années d'histoire géologique. Et puis on aura le dimanche le temps fort, ça va être la table ronde animée par votre radio avec des experts qui vont venir parler des enjeux de la viticulture, de l'agriculture biologique dans son ensemble.
Les 27, 28 et 29 avril, salle de l'atelier à Villefranche. Plus d'infos, salonduvinbio.com. Restaurant du Cœur, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, est en train même à se dégrader. Inquiétude également pour l'avenir de l'association humanitaire due à l'incertitude de l'attribution du montant du Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, à l'horizon 2021. Le point tout de suite de la situation sur le Rhône avec son responsable départemental, Bertrand Magnon-Pujouf.
Le bilan, c'est que, en tout cas dans le département du Rhône, on reste un département très dynamique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sans doute une des plus grosses associations départementales. Et donc on a surtout l'ambition de développer d'autres activités que la simple activité d'aide alimentaire. Puisque le maître mot des restos, et c'est le message qui nous a été laissé par Véronique Colucci, quand donner à manger ne suffit plus. Voilà, donc les gens ont besoin de manger, c'est sûr, mais les gens ne poussent la porte des restos pas uniquement pour l'aide alimentaire. Ils sont contents de passer un peu de temps, d'avoir un accueil, d'avoir un café, d'avoir des activités comme les cours de français, comme le soutien scolaire, les microcrédits, l'accès aux droits. Enfin, je passe rapidement toutes les activités qu'on développe dans les Restos du Cœur du Rhône, en tout cas.
Donc, un gros centre, effectivement, on voit avec la multiplicité, comme vous le dites, vous le rappeliez, des différents services, si on peut l'appeler comme ça. On a l'impression que c'est quasiment une petite entreprise qui fourmille, bien sûr, de bénévoles. Et on se dit aussi que c'est un substitut, en quelque sorte, à l'aide sociale publique. J'allais presque dire ça.
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent.
Ah oui.
Il y a beaucoup d'associations en France qui aident les gens en difficulté. Alors, est-ce qu'on se substitue à l'aide publique ?
Complément ?
On est certainement complémentaire d'aide publique. Après, oui, on a accueilli au Resto du Cœur pour cette campagne d'hiver 980 000 personnes, ce qui est quand même beaucoup. Si les associations comme les nôtres n'existaient pas, est-ce que l'État pourrait pour autant faire face à toutes ces difficultés, cette misère ? Je ne crois pas.
On a l'impression que ça ne finit jamais finalement. Un sentiment d'impuissance constant, même si tout est de bon cœur.
Historiquement, c'est vrai. Je rappelle que Coluche a lancé la première campagne en 85 et il l'avait lancée que pour une saison. On est en pleine 34e campagne. On termine la 34e campagne d'hiver et on démarre dans quelques jours la campagne d'été, puisque maintenant, les restos se doivent d'être ouverts toute l'année. On a découvert il y a quelques années, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que les gens ont besoin de manger toute l'année, les gens sont en difficulté toute l'année et ont besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement toute l'année. Voilà, donc notre objectif, et ça se développe de plus en plus dans le Rhône, on l'a vu pour Villefranche qui va ouvrir aussi au mois d'août, nos centres vont quasiment être ouverts toute l'année maintenant.
Petit souci quand même, effectivement, pour les restaurants du cœur sur l'échéance prochaine, 2021.
Alors effectivement, les Restos du cœur font partie, comme d'autres associations françaises, du FEAD, donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui est en pleine renégociation pour une nouvelle période qui démarre à 2021. Le FAD aujourd'hui représente à peu près 20% des ressources des restos. S'il diminue ou à plus forte raison s'il disparaît, les Restos du cœur et les autres associations seront en grande difficulté. Faut considérer que 20% de nos ressources, c'est énorme.
Le président des Restaurants du cœur, Patrice Blanc, appelait la France à défendre l'aide alimentaire de l'Union européenne en novembre dernier, qui risque de voir son budget divisé par deux. Le président des Restaurants du cœur s'inquiète de l'avenir du Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, qui finance plus d'un repas sur quatre parmi les 130 millions de repas distribués par son association. Et pour conclure cette édition, la folle aventure, c'est quoi ? La toute nouvelle librairie coopérative de Trivoux qui ouvrira ses portes le 18 mai prochain. L'histoire de cette folle aventure avec Héloïse Pontus, l'une des bénévoles engagées dans cette action citoyenne.
Alors, elle est née en 2016 en fait, lorsque la précédente librairie qu'on avait sur Trivoux, la Plume Rouge, a fermé ses portes. Beaucoup de gens étaient très déçus de la fermeture de cette librairie et un collectif d'habitants s'est rassemblé dans l'idée soit de soutenir cette librairie qui fermait, soit de repartir sur un nouveau projet. Donc la précédente, l'histoire était terminée, donc on ne pouvait plus rien faire, donc ils se sont rassemblés. C'était au départ des réunions officieuses et puis petit à petit le projet a pris forme. Ils ont rencontré d'autres librairies coopératives, ils ont commencé à faire une étude de marché, à se renseigner, à trouver le local qui pourrait accueillir nouveau commerce. Et puis tout ça nous a amené à l'année dernière où on a vraiment créé la coopérative donc, et la folle aventure. Et ensuite, le local a été également trouvé grâce à une UCI qui s'est fondée avec les acteurs en fait, et les partenaires sur le territoire. Et enfin, on a recruté notre libraire professionnel l'année dernière également. Et les travaux vont démarrer. Et nous sommes en train de finaliser tout ça jusqu'à l'ouverture du mois de mai.
Un gros travail, j'allais dire, en quelque sorte participatif, c'est ça, puisqu'il n'y a que des habitants.
Que des bénévoles, que des habitants, plus le soutien en fait, des partenaires de l'économie sociale et solidaire sur Trivoux, qui est un énorme tissu, en fait, qui nous ont beaucoup appuyés, beaucoup soutenus pour qu'on puisse démarrer, ou d'autres organisations telles que Village Vivant, en fait, qui œuvrent à réhabilitation des centres-villes, qui fait partie de nos objectifs aussi, et qui nous ont beaucoup soutenus dans cette aventure.
Alors, il y a une bibliothèque municipale à Trivoux, plus une librairie qui est coopérative, mais qu'on va dire un petit peu privée, c'est ça un peu.
Tout à fait. Donc, il y a la médiathèque sur Trivoux, très belle médiathèque, en fait, qui a été créée il y a quelques années. Il y a également la librairie. C'est deux choses complètement différentes, en fait. La librairie, vraiment, s'adresse aux gens qui voudront venir acheter des ouvrages, et également des jeux, et également de la papeterie. Et la médiathèque joue son rôle habituel, etc.
Oui, éducatif.
Exactement, ouais. Pour l'accueil des écoles, des gens. Ça cohabite.
Alors comment, effectivement, on part de rien, presque de rien, j'allais dire, finalement, et puis comment on... explique-nous un petit peu comment... Moi, je suis assez curieuse de savoir comment on crée une librairie.
C'est une très bonne question, en fait. J'ai rejoint le projet en cours de route, moi, et donc les habitants s'étaient déjà réunis. Comment on part de rien, c'est très, très dur, parce qu'au début, c'est juste une idée, un projet. C'est même né d'une déception, en fait, la douleur d'avoir perdu sa librairie pour les bons lecteurs qu'on avait sur Trivoux et les communes environnantes. Ça commence par des petites réunions officieuses, comme je disais tout à l'heure, et ensuite, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, beaucoup de démarches auprès des banques, beaucoup de démarches pour savoir quelle structure donner, pourquoi on s'oriente vraiment vers une coopérative. L'idée, c'était quand même de ne pas supporter tous les risques et toutes les responsabilités s'appuyer sur une seule personne, mais de combiner les compétences de chacun pour pouvoir mener un projet à bout. Donc vraiment, la structure de la coopérative s'est imposée d'elle-même. Et puis ensuite, il a fallu présenter le projet aux habitants, avoir l'adhésion de tout le monde, le soutien de tous, démarcher les banques, démarcher les entreprises partenaires, trouver les locaux au sein de la commune, etc. Beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été multipliés là, durant 3 ans.
La nouvelle librairie coopérative de Trévoux vous donne rendez-vous le 18 mai prochain dans la grande rue de Trévoux. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade. Notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.